Il y avait quelques questions encore. Bonjour, bonjour à tout le monde. Et merci à Joseph Allos et Pascal Mariotti d'avoir accepté donc de prolonger les échanges d'hier très riches sur le territoire par quelques présentations. Là, avec Francis Jean, donc, délégué régional de Bourgogne-Franche-Comté, nous allons vous parler d'une démarche qui est actuellement en cours, hein, qui a démarré sur le début de l'année 2013, qui va se poursuivre. Une démarche donc, dont l'originalité est qu'elle a été initiée par l'Agence régionale de santé. Donc, c'est Monique Cavalier qui était directrice générale de l'agence et puis Christophe Lannelong donc, qui a pris sa succession, qui était au cabinet de Marisol Touraine, donc, qui ont souhaité très tôt, dans la démarche du projet régional de santé en Bourgogne, mettre l'action sur les parcours. Et parmi les parcours qui ont été retenus, donc, le parcours de vie et de soins, le parcours de soins et de vie de la personne en situation de handicap psychique, donc, sur lequel il m'a été demandé de travailler. Donc, ce n'est pas en tant que directeur d'établissement que je vous parle, mais plutôt en tant que chargé donc, de mission de l'agence sur cette thématique-là avec Francis Jean. Alors, j'avais souhaité très très tôt que cette démarche, bon, on sait qu'elle est minée, hein, le champ du handicap psychique, c'est pas un vocabulaire classique en psychiatrie, c'est plutôt quelque chose qui a émergé à la demande de l'UNAFAM dans le cadre de la négociation de la loi de 2005. On sait que c'est pas le vocabulaire de la psychiatrie, mais justement, on a voulu faire l'expérience de voir comment on pouvait travailler sur le décloisonnement sanitaire, médico-social et social à partir de cette démarche parcours autour du handicap psychique des personnes. Donc on est sur la région Bourgogne, j'insisterai pas sur cette région, donc avec la capitale régionale Dijon, et puis les quatre territoires, ils correspondent aux quatre départements. Bon, il y a 21 bassins de vie, mais les quatre départements, à partir du moment où on est sur le champ du handicap, on est aussi dans le champ des compétences du Conseil général, il nous a paru que le département était le bon niveau de travail. Ce qu'on a voulu tout de suite, c'est identifier de qui on allait parler, donc pas se faire trop de nœuds sur la population concernée. Donc il y a 1 500 000 personnes en Bourgogne et on a voulu dire notre travail, ça va être d'améliorer le parcours de soins et de vie de 15 000 personnes. Voilà, c'est le 1% qu'on annonce généralement pour les troubles schizophréniques. Donc on a voulu dire on s'intéresse à la vie quotidienne et au parcours des personnes qui ont des troubles psychiatriques sévères. Donc 15 000 personnes en Bourgogne. Et si on arrive à améliorer leur parcours de vie et de soins, eh bien on a rempli notre mission. Donc on va essentiellement centré sur la méthodologie. Donc on est parti du travail qui a été mené dans le cadre du projet régional de santé. Donc en 2011, il y a un groupe qui s'est réuni et qui avait identifié un certain nombre de points de rupture. Donc, je ne vais pas les reprendre dans le détail, puisque notre mission, ça a été de les revisiter. L'équipe qui avait travaillé donc avait identifié les points de rupture qu'on retrouve classiquement, hein, que ce soit lié à l'hospitalisation, puisqu'on sait qu'on est sur des maladies chroniques où il y a des hospitalisations, souvent plusieurs hospitalisations tout au long du parcours de vie de la personne où elle revient vers le soin, et puis aussi des ruptures liées à la prise en charge en établissement social et médico-social ou les ruptures liées à l'accès au logement, au travail et toutes celles qu'on connaît aussi sur l'accès à la vie ordinaire, à toute la vie sociale des personnes. Donc on a revisité l'état des lieux fait en 2011 dans le cadre du projet régional de santé. Notre méthodologie de travail donc, est relativement simple. Alors, je vais essentiellement insister sur la méthodologie hein, de manière à pouvoir vous la partager avec vous. Donc, on a une phase d'identification des solutions possibles. On va dire c'est la phase de dialogue. Donc, on dialogue avec les territoires de santé à partir donc, de plusieurs outils que je vais vous présenter. Donc, avec pour objectif d'actualiser les points de rupture, d'identifier des solutions, et puis surtout d'apprécier, puisqu'on est sur un terrain quand même qui est très souvent miné, la pertinence partagée entre les acteurs du sanitaire, du social et du médico-social sur les réponses possibles. Et on est parti de la palette de réponses qui avait été identifiée dans le rapport de l'IGAS sur le handicap psychique. Et sur la base de ce rapport, on a essayé de regarder pour chacun des points de rupture qu'on avait identifiés s'il y avait une vision partagée entre les acteurs du sanitaire, du social et du médico-social. Avec l'idée que si il y a une pertinence partagée, eh bien c'est plus facile pour la gestion de projet. Quand le terrain est miné par des quelques guerres de religion qu'on connaît bien, eh bien la gestion de projet s'enlise un peu. Et comme on voulait diminuer le nombre de réunions pour la dynamique projet et faire aussi des choix, donc à la demande du directeur général, des choix sur certains territoires, eh bien on a dit on privilégie les territoires où le travail est possible, puisqu'il y a une vision partagée sur les réponses entre les acteurs du champ sanitaire, du champ social et médico-social. On a une phase de choix des actions donc, qui suivra la phase d'identification des solutions possibles, donc cette phase de dialogue. Donc on est dans cette phase actuellement de choix des actions. Et puis on aura ensuite une phase de mise en œuvre effective des actions, puisque la direction générale donc, de l'ARS souhaite que cette démarche parcours soit à l'origine d'un certain nombre de thématiques qui vont conduire ensuite à définir des actions très précises à prendre en charge dans le cadre du fonds d'intervention régional. Alors la phase de dialogue, c'est la plus importante et on a souhaité qu'elle soit un petit peu innovante, c'est-à-dire qu'on est allé au contact des territoires, on a élaboré pour gagner un petit peu de temps un questionnaire en direction des structures et des professionnels, un questionnaire qui nous conduit simplement à analyser la pertinence partagée et aussi la connaissance, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de réponses possibles, il y en a beaucoup dans le champ du handicap psychique, qui sont connues sur certains territoires, qui ne sont pas connues dans d'autres, qui sont connues par les retours d'expérience ou la littérature, et on voulait vérifier effectivement le niveau de connaissance que pouvaient avoir les acteurs du sanitaire, du social et du médico-social sur les différentes réponses possibles, sachant qu'il y en a il y a des actions de réhabilitation qui sont nées dans le secteur sanitaire, ou il y a des actions de réponse sur l'accompagnement des personnes qui sont nées dans le secteur médico-social. Et puis, le caractère un petit peu innovant de la démarche, et Francis Jean va en parler, c'est qu'on a voulu associer les personnes concernées. Donc, on a voulu associer les personnes concernées par un questionnaire où ils pouvaient, accompagnés quelquefois par des professionnels, répondre aussi à un certain nombre de questions et nous parler de leur propre parcours. Donc, cette démarche parcours, en permanence, on l'a revisitée à partir de témoignages concrets, l'importance du travail avec l'UNAFAM, de témoignages concrets sur les parcours, sur des parcours qui sont plutôt bien passés parce qu'il y a eu des réponses adaptées, même si la maladie chronique et la pathologie est très sensible. Et puis, dans d'autres situations, ça s'est mal passé parce qu'il n'y a pas eu de réponse adaptée. Donc, on sait les deux questionnaires, le questionnaire structure et le questionnaire professionnel et personnes concernées sont dans une même démarche cohérente qui est une démarche de dialogue pour essayer d'identifier les solutions possibles sur les différents territoires de la Bourgogne. On a utilisé pour communiquer de manière assez classique une lettre d'information Infoparcours Psy, là pour faire du travail un peu pédagogique, donc faire connaître des réponses nouvelles. Par exemple, on a fait connaître ce que ça pouvait être un centre de ressources autour du handicap psychique, ce que ça pouvait être un gestionnaire de parcours, voilà, des choses qui ne sont pas automatiquement connues sur tous les territoires, qui ne sont pas automatiquement des réponses auxquelles les acteurs pensent spontanément. Alors, à l'occasion de l'élaboration du questionnaire, en partant des témoignages de personnes, de parcours de personnes, on a revisité donc les points de rupture qui nous paraissaient les plus importants dans le parcours d'une personne en situation de handicap psychique. Le premier point de rupture que l'on a analysé, c'est l'apparition des troubles. L'apparition des troubles, donc les psychoses émergentes, c'est la fin de l'adolescence, les jeunes adultes avec des diagnostics qui ne sont pas encore faits, on est sur les troubles. Donc cette période-là, ça nous a paru le premier point de rupture, celui sur lequel il devait avoir une attention tout à fait particulière. On a identifié ensuite la crise. On a voulu distinguer la situation de crise de la dégradation de l'état psychique de la personne, considérant que la situation de crise était quelque chose d'aigu et que la dégradation de l'état psychique, ça faisait partie du parcours de vie de la personne en situation de handicap psychique, compte tenu de sa maladie chronique, qu'il pouvait y avoir dégradation et qu'on devait pouvoir avoir des réponses adaptées au problème de dégradation, que la personne vive en milieu ordinaire dans sa famille, qu'elle vive seule ou qu'elle soit en établissement social et médico-social. On a voulu identifier aussi les réponses adaptées, la pertinence des réponses adaptées sur des ruptures liées aux réhospitalisations, quand il y a des allers-retours avec l'hôpital, que ce soit en structure d'hospitalisation complète ou d'autres réponses. Et puis, tout ce qui concernait l'autonomie, la participation, le soutien aux aidants, l'accès et le maintien dans le logement et l'insertion professionnelle de manière classique. Donc, le questionnaire suit les thématiques, suivent les points de rupture que nous avons identifiés dans la démarche. Voilà, donc pour vous donner un exemple, la première question, c'était afin d'orienter et d'apporter un soutien aux aidants, familles, aux proches et professionnels lors de l'apparition des troubles. On avait mis sur la partie gauche une palette de réponses possibles. Cette palette, c'est celle qu'on retrouve dans le rapport de l'IGAS sur le handicap psychique. Donc ça va du médecin généraliste aux interventions dans les maisons de santé, en passant par les différents parcours, les équipes mobiles, les SAVS, SAMSA. Et on retrouve à toutes les questions la même palette. Et on a voulu tester à chaque fois, est-ce que les acteurs qui ont été interrogés, donc qui ont répondu de manière très, très importante, connaissaient ou ne connaissaient pas, et puis ensuite, ça leur paraissait pertinent ou pas pertinent. Et dans l'analyse, on regarde si la pertinence est partagée entre les acteurs du sanitaire, du social et du médico-social, puisque c'est sur la pertinence partagée qu'il y a un espace pour la gestion de projet. Voilà. Donc, il n'y a pas dans ce questionnaire, pas du tout une volonté statistique, c'est plus une volonté de créer une dynamique projet là où c'est possible. Donc, il y a 9 questions comme ça. Et puis, vous avez aussi, on a voulu identifier les projets en même temps sur les différents territoires pour se dire qu'effectivement, il y a une pertinence partagée, mais il y a très souvent beaucoup de projets qui sont en stock, hein, en gestation, et on a voulu les réidentifier sur l'ensemble des territoires. Alors, le questionnaire personnel concerné, donc Francis Jean va vous le présenter, c'est l'élément innovant de notre démarche.
Oui, alors effectivement, très rapidement, nous nous sommes aperçus qu'il y avait lieu rassembler autour de ce projet les personnes qui étaient directement concernées, qu'on n'est pas habitué jusqu'à maintenant, tout au moins, et surtout avec cette ampleur, de les associer à cette démarche. Alors, la première, une fois qu'on a dit qu'on allait les associer à ce projet, il faut qu'on a décidé de bâtir un questionnaire qui était spécialement destiné à ces personnes et en suivant, si vous voulez, les thématiques qui ont eu cours lorsqu'on a interrogé les gestionnaires de structures, le sanitaire ainsi que les associations, par exemple les associations de famille, auxquelles on a rajouté certaines choses comme par exemple la lutte contre la stigmatisation qui est un point très très important pour elles, en se basant sur le vécu de cette personne. Et très rapidement, il y a lieu absolument d'associer les personnes concernées à la confection de ce questionnaire. C'est par là que l'on commence, en réunissant une vingtaine de personnes, celles qui, par exemple, fréquentent les GEM, celles qui sont en ESAT, et celles qui sont dans le milieu ordinaire, dans leur famille, etc., pour qu'elles nous fassent part de leurs questions, que ce ne soit pas un questionnaire de l'UNAFAM ou un questionnaire du CMP ou un questionnaire, mais que ce soit leur questionnaire. Voilà. Et à partir de là, il ne nous restera plus qu'à partir de leurs interrogations à mettre cela en forme, et on le fera avec des professionnels, des statisticiens, de l'ARS et des gens qui connaissent l'art et la manière de mettre cela en forme.
On vous donne quelques éléments de résultats, non pas pour insister sur le fond, mais plutôt insister sur la méthode. Hein. C'est l'intérêt de cette intervention. Donc voilà le type de réponse auquel on arrive, c'est-à-dire que là, il y a plus de 300 personnes qui ont répondu. Sur chacune des questions, on peut noter par exemple, sur l'apparition des troubles psychiques, eh bien, qui est plébiscité, finalement. Alors, on voit qu'en pertinence, par exemple, on a mis les 5 premiers qui arrivent. On voit le médecin psychiatre libéral, le médecin généraliste, les compétents psychiatriques dans les urgences, les professionnels du secteur social formés, ce qui nous a paru relativement intéressant, et les psychologues libéraux, on voit qu'ils sont avec des niveaux de pertinence partagée qui sont au-dessus de 75%. Voilà, ça veut dire que quand on a des acteurs du sanitaire, du social et du médico-social, ben, il y aura peut-être, si on les a mis autour d'une table, les 25% qui considèrent que ce n'est pas pertinent ou les 20% qui considèrent que ce n'est pas pertinent, c'est peut-être eux qui auraient été les plus actifs dans les échanges. Hein, mais il y a déjà quand même 75% et 80, jusqu'à 88% pour le médecin psychiatre libéral qui considèrent que, ou 85% pour le médecin généraliste, qu'il y a une réponse pertinente partagée de faire intervenir plutôt le médecin généraliste, par exemple, pour l'apparition des troubles psychiques. Alors ça, c'est pas ces résultats-là ne sont pas des résultats bruts qu'on va directement décliner en action. C'est des résultats pour ouvrir les échanges avec les territoires concernés. Mais on se dit qu'on aura avancé, puisque les échanges ne se feront pas simplement à partir d'une dynamique de groupe, mais bien à partir de déjà une première analyse sur la pertinence partagée. Et puis, on a recueilli des informations sur la connaissance aussi de certaines réponses. Donc, on s'aperçoit que... c'était un questionnaire qui était quand même fait pour des gens initiés, c'est-à-dire qu'il fallait bien connaître le champ du handicap psychique pour pouvoir y répondre, mais qu'ils ont pu faire la distinction, puisqu'on n'a pas les mêmes réponses, lorsqu'on est sur l'apparition des troubles, lorsqu'on est sur la situation de crise, la diapo suivante. Lorsqu'on est sur la dégradation de l'état psychique en milieu ordinaire ou la dégradation de l'état psychique des personnes qui sont en établissement social et médico-social, alors qu'on avait la même palette au départ pour l'ensemble des questions. Alors on voit que le médecin généraliste, bien sûr, on le retrouve aussi un peu partout, mais par exemple, le médecin généraliste, on le voit, il est plus plébiscité dans sa réponse lorsqu'on est sur l'émergence des troubles ou éventuellement la situation de crise, alors que pour ce qui est la dégradation de l'état psychique, on est plutôt sur des réponses, on est vers les visites à domicile des CMP ou les médecins psychiatriques du libéral, voilà, sachant que les niveaux quand même de pertinence sont des niveaux relativement élevés qui dépassent les trois quarts des personnes qui ont répondu, donc plus de 200 personnes qui ont répondu, avec un échantillon très très large de professionnels, que ce soit des médecins psychiatres, des psychologues ou des acteurs du champ médico-social et social. Voilà. Bon, je ne vais pas détailler les réponses, mais on a donc une matière première intéressante pour ensuite ouvrir le dialogue sur chacun des points de rupture et pouvoir définir sur les territoires des actions. Donc, on peut passer les questions. Donc, on a fait la même chose pour l'autonomie. Alors, on a recueilli aussi des réponses pour les personnes concernées. Francis Jean va vous faire quelques commentaires sur déjà les premiers éléments d'analyse.
Oui, alors ce sera uniquement des commentaires sur la forme. La première des choses qu'on voudrait dire, c'est le vécu des personnes là qui nous intéresse et qu'on a cherché à appréhender à travers les points de rupture qu'ils pouvaient identifier. Donc on vous donnera là quelques exemples, hein, et on ne s'interrogera pas sur le sens des résultats. On vous dira, par exemple, dans cette diapo, hein, la qualité de la prise en charge à la sortie de l'hospitalisation. On voit bien ce qu'on a cherché à présenter, hein, par rapport, lorsqu'on est en sortie d'hospitalisation, quel renseignement, quel vécu a eu la personne de cette sortie d'hospitalisation. Là aussi, on a par rapport, si vous voulez, bon, l'interprétation qu'on pourra ensuite donner à cette diapo, hein, c'est l'importance du médecin généraliste dans le suivi des personnes qui sont dans la cité. On s'aperçoit que le nombre de personnes concernées qui se font suivre par leur médecin généraliste, c'est quand même d'un niveau élevé. Voilà. Et on a même été jusqu'à dire... Est-ce que, vous voyez, il y avait personne, hein. Personne ne vous suit. Il y a très peu, et ça nous a quand même un petit peu rassurés. Voilà. Et comment ils aimeraient être suivis? Est-ce qu'ils souhaiteraient qu'il y ait plus de déplacements de la part des CMP? Et si ce déplacement doit se faire en fonction de l'état de la personne, hein. Et on a présenté, on leur a présenté plusieurs alternatives à l'hospitalisation, comme l'hospitalisation à domicile et les appartements thérapeutiques. Ensuite, alors là, oui, alors on a eu un chapitre assez important quand même sur les soins du consentement, qui représentent pour ces personnes, et ça nous a tout à fait confortés, parce que en même temps, si vous voulez, qu'il peut y avoir une alliance famille, personnes concernées sur les soins sans consentement, qui représente vraiment une situation que je qualifierais de dramatique. Hein, voilà. Et on essaie de voir comment ils l'ont ressenti. Hein, voilà. Et vous voyez, par exemple, question qui nous ont demandé d'introduire, celle qui est en bas de cette diapositive, prise en charge de l'animal de compagnie. On peut dire, mais attendez, qu'est-ce que ça vient faire là, l'animal de compagnie? Eh bien, oui, on s'était aperçu que pour celles et ceux qui en avaient, c'était important de savoir comment ils pouvaient se séparer de leur animal de compagnie alors qu'ils allaient rejoindre l'hôpital. C'est quelque chose qui nous ont indiqué comme étant pour eux un problème qui leur importait. Voilà. Ensuite, bien, le milieu ordinaire et comment ils concevaient les services qui pouvaient favoriser parce que c'est ça l'objectif fondamental, c'est que le plus possible d'entre elles et d'entre eux puissent avoir une vie significative dans le milieu ordinaire. Donc on a parlé, on leur a mis une palette de réponses qui leur permettaient de se maintenir dans ce milieu, et en expliquant bien, et c'est pour ça que la présence professionnelle pour encadrer et expliquer ce que pouvait être par exemple qu'un référent de parcours dont ils n'avaient jamais entendu parler pouvait les aider à déterminer leur choix. Et les souhaits, pareil, hein, le maintien. Lorsqu'on leur a expliqué ce que c'était qu'un parcours de vie, ça c'est fondamental, d'expliquer aux personnes, et pas seulement à elles d'ailleurs, expliquer aux médecins, expliquer aussi aux travailleurs sociaux ce qu'est un parcours de vie. Mais à elles surtout, hein, c'est qu'était donc le souhait, lorsqu'on veut accéder et être maintenu dans un logement, aussi bien pour celles qui ne sont pas autonomes ou celles qui sont autonomes et qui veulent avoir un appartement individuel. Le travail, dont, et vous voyez, voilà, en bas de cette diapo, vous avez un temps moyen d'attente. On s'est aperçu, mais on le savait, mais ça nous a conforté dans notre point de vue, que c'est le temps moyen d'attente pour accéder à un ESAT est de 34 mois. Alors là, on voit bien qu'à partir de cette information, on a des pistes d'action à mettre en œuvre. Voilà, un ESAT supplémentaire, un SAS ou d'autres formes d'organisation pour le travail. Ensuite, on s'est aussi penché sur le travail en milieu ordinaire, donc qui pour l'instant n'est pas très développé, mais dont nous avons là le pressentiment qu'il devrait être beaucoup plus développé moyennant certaines conditions, en particulier des conditions d'accompagnement dans le travail du milieu ordinaire et l'aménagement de leur temps de travail. Voilà. Maintenant, la vision, disons, du soutien et de l'information des familles vue du côté des personnes souffrantes. Voilà comment elle voit l'influence de la famille.
Voilà, à partir de ces exemples, donc ces quelques exemples, donc vous sentez la méthodologie dans laquelle on est. Hein, donc c'était une phase de dialogue où on n'est pas du tout hospitalo-centré. Hein, donc on interroge tous les acteurs du champ médical, médico-social et social, et puis les personnes concernées. Et l'ensemble de ces résultats, c'est notre matière première d'échange avec les territoires pour définir une démarche qui soit pertinente dans le cadre du projet régional de santé. Donc on va mettre en musique l'ensemble des échanges que l'on va avoir avec les acteurs donc sur les différents territoires, donc à plusieurs niveaux. Donc un niveau stratégique régional, donc ce que souhaite Monsieur Lannelongue, le directeur général, donc c'est qu'on ait des axes, quelques axes. Donc ils ne sont pas encore totalement validés, mais on en a vu au moins trois. Hein, ils sont relativement simples. C'est mieux accompagner le parcours de soins. Donc là, on est vraiment sur les réponses du secteur sanitaire. Mieux coordonner parcours de soins et parcours de vie. Là, on est sur les allers-retours entre la vie quotidienne des personnes et puis le système sanitaire et nos établissements. Et mieux accompagner le parcours de vie. Là, on est plus sur les réponses de vie quotidienne, l'accès au travail, au logement ou à la vie sociale. Et l'objectif donc dans la région Bourgogne, c'est d'avoir un vivier d'action régionale. Donc un vivier d'action régionale que validé par la direction générale de l'ARS, et que sur la base de ce vivier d'action régionale, donc qui reprendra, il y aura des actions sur chacun des points de rupture identifiés, eh bien les territoires, et là, alors on avait pensé au départ travailler sur les bassins de vie, mais on a plutôt travaillé sur les départements, donc les quatre territoires donc de départements, pour avoir un dialogue aussi de qualité avec le conseil général, on va certainement arriver à des plateformes territoriales hein, pour la gouvernance, que les territoires puissent choisir dans le vivier d'action régionale les réponses qui leur paraîtront pertinentes pour leur territoire, puisqu'effectivement, il y a des différenciations si on est sur le secteur urbain, sur le secteur périurbain, ou sur des zones rurales, ou des zones sur lesquelles le médico-social est relativement développé, ou des zones sur lesquelles il y a eu beaucoup d'actions de réhabilitation, de structures de réhabilitation mises en place par les structures sanitaires, ou des endroits où ce sont les déserts médicaux. Donc, on a vraiment des choses différentes. Et puis, on souhaite aussi, dans le vivier d'action régionale, introduire des choses expérimentales, mais des choses expérimentales qui seront proposées, mais que les acteurs territoriaux pourront ou non s'approprier. C'est-à-dire que c'est bien eux qui feront le choix sur les territoires de s'approprier ou non une partie des actions proposées dans le vivier d'action régionale. Et l'indicateur qualité, ce sera que l'ensemble des actions qu'on aura retenues à la fois dans le vivier d'action régionale et puis sur les différents territoires, permettent d'atténuer les points de rupture qu'on a identifiés dans la démarche, c'est-à-dire qu'on progresse sur la vie, le parcours de vie des personnes en situation de handicap psychique. Donc on va certainement mettre en place, comme ça se fait dans beaucoup de régions, hein, des plateformes territoriales, je ne sais pas si c'est le mot qui sera retenu, mais des plateformes territoriales de coordination avec un certain nombre d'acteurs et puis quelque chose au niveau régional aussi pour pouvoir faire le bilan d'avancée des différents territoires. Et la mission donc, que nous animons avec Francis Jean donc, se poursuivra en lien avec les délégations territoriales et puis avec la direction régionale en fonction du niveau d'échange, si on est sur le vivier d'action ou si on est sur la déclinaison territoriale, une animation qui se poursuivra donc, certainement pendant quelques temps puisqu'on est sur un travail de fond. Voilà, merci de votre attention.